Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, un peu, j'allais dire, un peu du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier, c'est demain.
Alors, hier, c'est demain. Alors, c'est une petite chronique, on va dire, qui visite le passé, mais avec cette vision du présent pour notre avenir. Chaque semaine, donc, on profite de la mémoire de Jean-Pierre Foubert pour nous replonger dans les histoires de la région, disons. Alors, depuis quelques chroniques, Jean-Pierre nous a raconté la présidence d'André Vézinet, ancien premier adjoint à la mairie de Montpellier, qui était devenu le président du Conseil général de l'Hérault. Dès 1998, il restera de nombreuses années. Alors, on va faire un retour cette fois-ci sur, je dirais, un peu le personnage central de ces chroniques, Georges Frêche. Georges Frêche échoue à devenir président de la région, on en avait parlé, c'était en 1998, après l'alliance entre les conseillers régionaux de droite et ceux du Front National, lors de l'élection du président du conseil régional, et c'est donc Jacques Blanc qui devient le président de ce conseil. Cependant, maintenant nous sommes en mars 2004, et la liste d'union de la gauche, qui est tenue, portée par Georges Frêche, arrive en tête du second tour de l'élection régionale en, ce qu'on disait à l'époque, Languedoc-Roussillon. Jean-Pierre Foubert va nous raconter un peu la suite. Nous sommes donc en 2004.
Oui, alors Georges Frêche donc devient président à la suite de cette élection et immédiatement. Alors il faut rappeler que sa liste est une liste donc
d'union
de la gauche et qui ne concerne que le Languedoc-Roussillon.
Voilà, nous sommes bien d'accord.
Donc Georges Frêche va tout de suite mettre en place une nouvelle politique, c'est-à-dire éviter le côté saupoudrage qu'il reprochait
à Jacques Blanc
précédemment, et donc essayer de d'établir, disons, une relation avec les différents départements, y compris d'ailleurs avec la Lozère. Ça va avoir des résultats assez intéressants. Par exemple, le sénateur de la Lozère qui vient de décéder, Alain Bertrand, qui était dans la majorité de Georges Frêche, et c'est vrai qu'avec le travail qui a été fait, il a pu se faire une place en étant dans un premier temps maire de Mende et puis en devenant par la suite sénateur. Le conseil départemental de la Lozère également a basculé de la même manière. On voit que dans l'Aude est établi quelque chose qui était un peu une tradition, qui est en train de changer énormément d'ailleurs actuellement. On va le voir, j'imagine, bientôt
aux prochaines
élections. Et on voit que dans les différents départements, il y a des changements qui s'opèrent. D'ailleurs, un des anciens collaborateurs de Georges Frêche à la mairie de Montpellier, Christian Bourquin, va être dans un premier temps conseiller départemental, puis va être ensuite président du conseil général, et puis d'ailleurs quand Georges Frêche décédera en 2010, lui succédera à la présidence de la région. Donc on voit très très bien que l'arrivée de Georges Frêche à la région va faire basculer un tas de bastions vers la gauche globale.
Et Jean-Pierre, je vous interromps juste une petite seconde pour les auditeurs, mais il était bien maire de Montpellier, alors qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il est touché par la loi sur les cumuls, et donc il décide de rester conseiller municipal.
D'accord, là il avait le droit de faire ça.
Voilà, de manière à pouvoir garder effectivement la présidence de ce qu'on avait appelé jadis le district, puis qui était devenu l'agglomération, et qui est maintenant
la métropole.
Métropole, mais...
beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, c'est assez récemment. Et donc le problème, c'est de savoir qui va remplacer Georges Frêche à la mairie. Et donc
ça se bousculait, j'imagine.
Mais tout le monde attendait la décision du maître. Il propose de confier les clés de la mairie à Hélène Mandroux.
C'était une surprise un peu, Jean-Pierre, à cette époque-là. Je parle en 2004. Faut se rappeler le contexte.
C'est-à-dire que Hélène Mandroux, d'abord, c'est une elle a été conseillère municipale, puis adjointe, etc., depuis 83, hein, quand oui, même. Oui. Donc, elle est habituée de la fraîchie, entre guillemets. Et puis, c'est une fidèle de Georges Frêche, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est une femme, et c'est la première fois qu'une femme peut être maire de Montpellier depuis la Révolution française.
Ah oui, en effet, c'est une révolution.
Complètement. Donc c'était un choix, et Georges Frêche donc pensait que effectivement les relations entre la mairie et la région et l'agglomération à l'époque fonctionnerait très très bien, et puis il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont se poser et qui font faire que effectivement les tensions entre la mairie de Montpellier et
la région Languedoc-Roussillon
vont avoir un petit peu le même aspect que les vicissitudes entre la région et le département.
Alors Jean-Pierre, puisqu'on profite de votre mémoire comme j'ai dit pour parler du passé, mais avec sur ce sentiment de, on va regarder un peu pour le présent. Il y avait déjà des candidats qu'on connaît maintenant. Monsieur Sorel, par exemple, Monsieur Vignal, faisaient partie de ceux qui auraient pu succéder à Georges Frêche.
Oui, alors c'est vrai que les relations avec trois personnages, avec Michael de la Fosse...
Et voilà, j'en oubliais un troisième, qui sont présents actuellement.
Voilà, et qui, effectivement, pourraient éventuellement prétendre à la succession de Georges Frêche. Alors, c'est ce que j'avais dit un jour, peut-être de manière maladroite, c'est un héritage, mais sans héritier, c'est-à-dire que je pense que...
Ou trop d'héritiers.
Oui, mais je pense que se réclamer de l'héritage de Georges Frêche, c'est réclamer la comparaison et que c'est un petit peu compliqué.
C'est un peu compliqué. Alors donc, vous voyez, les auditeurs de Divergence, que quand on parle avec Jean-Pierre dans cette émission Hier, c'est demain, on a quand même on se remet dans le contexte d'une époque, mais ça nous sert pour actuellement. Il y a eu déjà des tensions entre M. Vignal, M. de la Fosse et M. Sorel. Déjà à cette époque-là. Donc, vous voyez, on est rentré en 2004. Alors, on a fait du chemin depuis.
La politique est un vilain défaut.
Mais, oui, un vilain défaut. Puis, des fois, les alliances peuvent changer, revenir. Tout est possible. Et puis, Mme Mandroux, comme vous l'avez dit, qui au début est une fidèle, elle va retourner un petit peu. Elle va montrer qu'elle a du caractère.
Oui, on verra qu'elle a du caractère et actuellement, elle s'est ralliée à Michael de la Fosse.
Bah voilà, écoutez, on en parlera peut-être un peu de ce côté aussi, Madame Mandroux à la mairie. Alors merci en tout cas pour cette petite chronique d'hier, c'est demain.
Avec plaisir.
Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier... C'est demain.